Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La poignée de main tant attendue a eu lieu entre Donald Trump et Kim Jong-un cette nuit. Quelques mots pendant 30 secondes tout au plus de part et d'autre et une réunion au sommet en ce moment même. Nous irons à Séoul prendre le pouls de la population au sud et au nord. Nous reviendrons aussi sur cette annonce du gouvernement français. L'État fera un acompte de 30% sur les crédits d'impôt dès le 1er janvier prochain dans le cadre du prélèvement à la source. Un acompte c'est bien mais cela devrait être fait tous les mois, disent les principaux intéressés. Et puis pourquoi certains Français se pressent devant les magasins qui vendent du cannabidiol ? Et quel est exactement ce dérivé du cannabis ? Explication dans moins de 10 minutes. La poignée de main est d'ores et déjà historique entre Kim Jong-un et Donald Trump. La scène s'est déroulée cette nuit vers 3h du matin devant un hôtel de Singapour sur l'île de Sentosa. Le président américain a prédit une relation formidable avant de s'entretenir une quarantaine de minutes avec le dirigeant nord-coréen. Et Kim Jong-un qui a lui salué un sommet pour lequel Washington et Pyongyang ont, dit-il, surmonté des obstacles. Rien n'a filtré sur ce qu'il s'est dit ensuite en salle de réunion. Nous allons donc à Séoul retrouver notre correspondant Frédéric Ojardias. Frédéric, qu'est-ce qu'il se dit en ce moment chez le voisin du sud de Pyongyang ? Y a-t-il une forme d'euphorie à Séoul lors de ce sommet ?
Alors, de l'euphorie, non, pas du tout, parce que tous les Coréens connaissent bien beaucoup trop la Corée du Nord. Ils savent qu'il faut être un peu méfiant. Ceci dit, ça génère évidemment énormément d'intérêt. Ces images, elles tournent en boucle sur toutes les télévisions. La chaîne SBS a par exemple titré « Ils se rencontrent enfin », ou la chaîne GTBC qui a dit « Depuis l'axe du mal et l'ennemi impérialiste jusqu'à cette poignée de main, quel changement ». Il y a quand même une forme d'optimisme prudent parce que personne n'attend vraiment une dénucléarisation complète et immédiate. On s'attend plutôt à des engagements assez vagues qui permettraient de continuer le dialogue. C'est le début d'un processus parce qu'il faut bâtir la confiance. C'est le seul moyen de transformer la relation et de convaincre Kim Jong-un que sa survie restera assurée s'il renonce vraiment au nucléaire.
Voilà pour ce qu'il se dit au sud. Un mot, Frédéric, et également de la presse nord-coréenne ce matin. Que peut-on lire ? Que peut-on voir ?
Alors ça, c'est très surprenant parce que ce matin, justement, le Nodong Shinmun, le quotidien des travailleurs, le quotidien officiel, a montré Kim Jong-un qui se promène la nuit dans le paysage spectaculaire de Singapour, qui brille de mille feux. Et ça, c'est très inhabituel et c'est fascinant parce que moi-même, il y a 10 ans, j'ai emmené une délégation de 5 Nord-Coréens en Chine et ceux-ci avaient été préparés pendant plusieurs jours à l'avance, avant le départ. On les préparait à ce qu'ils verraient, les néons, les gratte-ciel, l'opulence, parce qu'il fallait justifier le contraste avec la pauvreté de la Corée du Nord. Et aujourd'hui, c'est toute la population nord-coréenne qui, sans filtre, peut voir ce matin l'éclatant succès du modèle capitaliste à Singapour. Alors, à l'évidence, le régime, il craint plus la comparaison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Kim Jong-un cherche à montrer à son peuple ce qui se passerait s'il choisissait la voie de l'ouverture ou est-ce juste un geste cosmétique ? En tout cas, ce matin, on a envie d'espérer un petit peu.
Merci Frédéric Ojardias, correspondant de RFI depuis Séoul ce matin. Les États-Unis vont durcir les procédures de demande d'asile. Cela servira à limiter le flot d'immigrants originaires d'Amérique centrale, assure le ministre de la Justice américain. Les allégations de violence domestique ou de violence de la part de gangs criminels ne suffiront plus pour déposer une requête au poste frontière. L'Aquarius cherche toujours un port pour accoster. À son bord, 629 migrants sauvés des eaux ce week-end. Malte et l'Italie refusent de leur ouvrir les frontières. Hier soir, Madrid a bien proposé son aide, mais l'ONG SOS Méditerranée explique que l'Espagne est trop loin pour le moment au vu des conditions météo et du peu de vivres à bord du navire. La crise migratoire avec l'Afrique, nous y reviendrons dans le billet de Jacques Munier dans 6 minutes. Berlin ordonne le rappel de plus de 700 000 Mercedes en Europe, des véhicules équipés de logiciels capables de fausser les niveaux d'émissions. C'est ce que dit en tout cas le ministre des Transports outre-Rhin. Journée de la colère cheminote en ce mardi. 15e épisode de grève. Parallèlement, depuis le début du mois d'avril, la direction de la SNCF prévoit donc 3 TGV et 3 Transiliens sur 5. Par ailleurs, hier, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont mis d'accord sur un texte commun pour la réforme ferroviaire. Au chapitre des colères sociales encore, les agriculteurs, ils ont bloqué toute la nuit 16 dépôts de carburant et raffineries dans le pays. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, recevra leurs représentants cet après-midi. La FNSEA et les jeunes agriculteurs protestent toujours contre l'importation de produits agricoles non conformes aux normes françaises. Et comment prendre en compte les crédits d'impôt auxquels ont droit les employeurs à domicile lors du prélèvement à la source l'année prochaine? Comment ces crédits seront-ils versés? Hier soir, Gérald Darmanin, le ministre aux comptes publics, a annoncé que 30% d'acompte serait versé dès le mois de janvier prochain et non plus en mars 2019 comme il en était question. C'est une avancée pour Marie-Béatrice Levaux, directrice de la Fédération des particuliers employeurs de France. Mais ce n'est pas l'idéal, dit-elle.
Il est très important de dire que aujourd'hui nous payons ce que nous devons à l'État tout de suite, au moment où nous recevons notre salaire ou notre retraite. Mais l'État, dans l'état actuel des choses, ne peut pas nous rembourser tout de suite ce qu'il nous doit. Donc nous faisons une avance de trésorerie. L'État concède donc actuellement que 30% de cette avance de trésorerie nous sera versée en janvier. J'ai deux soucis derrière cette histoire. La première, c'est bien sûr de saluer un geste, mais le geste n'est pas, je dirais, le dispositif final. Et le deuxième, c'est qu'il ne concerne pas tous les particuliers employeurs. 30% d'acompte ne va concerner que les particuliers employeurs qui étaient employeurs en 2017, parce que c'est effectivement une situation provisoire. Et nous avions proposé que le crédit d'impôt soit mensualisé, c'est-à-dire que lorsque vous payez votre impôt directement au moment où vous recevez votre salaire ou votre retraite, il est normal que l'État vous rembourse ce qu'il vous doit en même temps. La mensualisation du crédit d'impôt concernera tous les particuliers employeurs à partir du moment où se mettra en place. Ce geste n'est qu'une période transitoire et il ne concerne pas la totalité des employeurs à domicile.
Marie-Béatrice Levaux avec Hugo Chesinski. Prenons des nouvelles à présent de Parcoursup, cette plateforme qui permet aux lycéens de déposer des demandes d'inscription dans l'enseignement supérieur. Plateforme accusée de favoriser les élèves parisiens au détriment des jeunes de banlieue en Ile-de-France. Les quotas d'élèves hors secteur seraient en fait revus à la baisse, Marie Frumholz.
Parcoursup a déçu bon nombre d'élèves de terminale et parmi ceux qui n'ont pas obtenu pour l'instant l'affectation qu'ils souhaitent, on trouve une majorité de jeunes issus de banlieues. Même les excellents élèves se voient refuser l'entrée des grandes universités parisiennes. Sophie Vénétité est professeure principale d'une classe de terminale ES dans l'Essonne. Elle est aussi membre du syndicat national des enseignants de second degré, le SNES.
Si je prends le cas de mon lycée, on a 95% des terminales ES qui n'ont eu aucune proposition sur leurs vœux parisiens. C'est à peu près la même proportion sur les filières L et les filières S. Donc là, très clairement, on voit que le fait qu'ils viennent de banlieue a pesé très lourd. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de vider les universités de banlieue de tous les élèves de banlieue, mais il faut bien mesurer la violence symbolique que ça représente pour les élèves de se voir ainsi fermer les portes de Paris.
Des filières très demandées, comme les sciences politiques et le cinéma, accueilleront l'an prochain à peine 1% de lycéens non originaires de la capitale. Le taux minimum de boursiers est lui aussi revu à la baisse. La raison ? Eh bien, les élèves doivent se rendre prioritairement dans leur université de secteur. Le rectorat explique ainsi vouloir aider les facs de banlieue à garder leurs bons élèves. Un argument qui ne convainc ni les lycéens ni leurs professeurs, qui dénoncent une terrible injustice.
Du cannabis light dans des boutiques françaises. Depuis quelques semaines, des produits à base de cannabidiol sont apparus à Lille, Besançon ou Paris. Les clients y font parfois la queue pendant de longues minutes. Mais c'est un produit légal selon les vendeurs, les précisions de Léa Mormin-Chauvac.
Pour comprendre le statut juridique du cannabidiol, alias CBD, il faut partir de la classification des stupéfiants. Sont classés comme tels le cannabis et la résine. Pas le cannabidiol, qui n'est pas un dérivé du THC, molécule psychoactive interdite par la loi, mais un produit extrait de cannabis. Et c'est là toute la nuance, explique Yann Biziou, maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'université Paul-Valéry Montpellier 3.
Le cannabidiol n'est pas un stupéfiant et son commerce est a priori licite. La seule difficulté, c'est qu'il est fabriqué à partir d'un stupéfiant, le cannabis, et que les produits fabriqués à partir des stupéfiants peuvent être contrôlés. Donc, s'agissant du cannabidiol, la difficulté qu'on peut avoir, c'est pas le produit en lui-même, c'est le processus de fabrication et derrière la commercialisation de ce produit.
Pourtant, certains se demandent s'il n'est pas nécessaire de l'encadrer juridiquement.
Le cannabidiol, si j'en crois les échanges de la commission des stupéfiants, ne crée pas de risque de santé publique et ne génère pas de trafic illicite. Quel est l'intérêt, dans ce cas-là, de le classer ou de l'interdire ? Dans le code de la santé publique, on a un cadre juridique. Si le produit est à risque, on peut l'encadrer de façon très efficace et très facile. On ne l'a pas fait, non pas parce qu'on a oublié de le faire, mais parce qu'on n'en a pas vu l'intérêt.
Le principal risque est donc pour l'instant encouru par les usagers. Le produit étant similaire, les autorités peuvent le confondre avec un stupéfiant. Il est pourtant en vente légalement dans une dizaine de boutiques en France.
Attention au risque de pluie et d'inondation ce matin sur 24 départements des Ardennes jusqu'en Ille-et-Vilaine en passant par l'Île-de-France. Le nord-ouest et le sud-est seront au sec aujourd'hui. Et les températures entre 17 et 19 degrés au nord de la Loire, 19 à 23 au sud.